Bonjour à tous, joyeux sabbat. Dans la Bible, Dieu nous donne des prophéties qui expliquent l'histoire de l'humanité en avance. Et nous avons des prophéties de large envergure dans le livre de Daniel, parmi les plus détaillées de toute la Bible. Dans Daniel chapitre 2, les prophéties ont commencé avec une image d'une statue que Nebuchadnezzar a vue. La tête en or est identifiée comme Nebuchadnezzar et l'Empire de Babylone, et les trois autres parties du corps représentaient d'autres empires qui devaient suivre et prendre la place de Babylone. Dans Daniel chapitre 2, verset 4, il y a un fait intéressant. La langue dans laquelle le livre est écrit change d'hébreu, qui est la langue de l'Ancien Testament. Pratiquement tout l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Mais dans Daniel chapitre 2, verset 4, il commence une section de livre qui est écrit en araméen. L'araméen, c'était la langue de l'Empire assyrien, qui est devenue la lingua franca de tout le Moyen-Orient, puisque c'était le premier empire à s'étendre dans la région, et cet empire a laissé sa langue. Pourquoi est-ce que cette partie de Daniel a été écrite en araméen? La réponse est probablement que ces prophéties, les histoires et les prophéties contenues dans cette partie de Daniel, sont destinées au monde entier. Tout le monde devait pouvoir les comprendre. D'autres parties sont réservées aux Israélites, au peuple d'Israël. Cette partie, jusqu'à Daniel, la fin du chapitre 7, cette partie-là est écrite en araméen. Daniel chapitre 7 en particulier est une prophétie extrêmement détaillée qui expliquait longtemps à l'avance des choses qui devaient se passer dans ces quatre grands empires dont nous avons eu un avant-goût dans chapitre 2. Alors ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de lire ensemble Daniel chapitre 7 et puis de regarder quelles sont les significations, les différents aspects de cette prophétie. C'est très détaillé, et quand nous regardons l'histoire, la plupart de cette prophétie, la plupart des aspects de cette prophétie ont déjà été accomplis, mais il reste quelques aspects ou quelques points qui doivent encore s'accomplir dans l'avenir, peut-être de notre vivant. Alors, je vous propose d'abord de lire ensemble, pour avoir le tableau d'ensemble de ce chapitre, Daniel chapitre 7, et puis nous allons revenir et reprendre partie par partie pour essayer de découvrir quel était l'accomplissement ou quel doit être encore l'accomplissement de cette prophétie dans l'avenir. Alors, reportez-vous, s'il vous plaît, dans Daniel chapitre 7, et nous allons commencer au verset 1. Daniel chapitre 7, verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux furent irruption sur la grande mer, la Méditerranée. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents des uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer et mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortait du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle et ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité sur toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils le posséderont, le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait ou foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur 7 cornes qui avaient des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis 7 cornes faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Alors nous voyons que avant, les animaux étaient comparés à des rois, et maintenant, c'est les royaumes. Rois et royaumes sont interchangeables dans les prophéties. C'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera des saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination, la grandeur de tous ces royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur, et je conservai ces paroles dans mon cœur. Et ça, c'est la fin de la section de Daniel écrit en araméen. Cette prophétie est donc destinée à tout le monde. La terre entière devrait pouvoir comprendre ce qui est écrit. Je tenais à lire tout le chapitre pour avoir une vue d'ensemble et voir le train de l'histoire. Maintenant, nous allons revenir au début et nous allons décortiquer les différents aspects de cette prophétie pour comprendre l'accomplissement. Donc, nous lisons que Daniel, aux premières années de Belshazzar, le roi, a eu cette vision. Il regardait et il a vu sur les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. La grande mer, les mers souvent représentent la turbulence de l'humanité. Donc sur la scène humaine, on peut dire. Et 4 grands animaux sortirent de la mer. Nous avons déjà lu plus tard dans le chapitre qu'il s'agit de royaumes ou de rois. Les deux, comme j'ai dit, comme nous avons vu, sont interchangeables. Différents les uns les autres. Le premier était semblable à un lion. Maintenant, à la lumière de ce que nous comprenons de Daniel chapitre 2, avec la statue en 4 parties, dont la tête est identifiée comme le royaume de Babylone, nous pouvons supposer que c'est la même chose ici. Ce sont les mêmes 4 royaumes. Le lion représente le royaume de Babylone. Le premier était semblable à un lion, il avait des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où les ailes furent arrachées. Nous pouvons supposer que la santé du lion a été diminuée, les ailes ont été arrachées, c'est-à-dire que Nebuchadnezzar a été humilié, nous le voyons dans le livre de Daniel, c'est mentionné que ses ongles devenaient comme des talons d'aigle et ses cheveux poussaient de cette façon-là. Nous voyons donc un lien avec ce qui s'est passé à Nebuchadnezzar. Ses ailes furent arrachées, il est devenu fou pendant un temps, et puis Dieu lui a remis sur les pieds après. Et un cœur d'homme lui fut donné, il a retrouvé ses sens. Verset 5. « Voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. » Il avait trois côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Quel était le royaume qui a suivi l'empire de Babylone? Eh bien, c'était l'empire médo-perse. Il y avait deux aspects ou deux parties de cet empire, les Mèdes et les Perses. Et l'un était plus dominant, donc il avait un côté plus élevé que l'autre. C'était le côté perse qui était dominant dans l'empire médo-perse. Et il avait trois côtes dans la gueule. Quand nous regardons l'Empire perse, est-ce que nous voyons qu'il a mangé trois royaumes importants? Eh bien, effectivement, c'est ce que nous trouvons quand nous étudions l'histoire perse. L'Empire perse a vaincu le royaume de Lydie en 547 avant Jésus-Christ. Ensuite, Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Et puis l'Égypte en 525 avant Jésus-Christ. Ce sont les trois côtes qui étaient dans sa gueule. Il a vaincu ses royaumes pour faire agrandir son empire. Continuons, verset 6. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Les oiseaux étaient les animaux les plus rapides que l'on connaissait dans l'histoire. Donc, ce devait être un royaume très rapide avec quatre ailes. Il pourrait aller très, très vite. Quel était l'empire qui a succédé à l'empire perse? Eh bien, c'était l'empire d'Alexandre le Grand, l'empire grec. Et il avait, c'est marqué, quatre têtes. Et effectivement, à la mort d'Alexandre, il y avait une période de guerre entre ces généraux les plus éminents, les plus importants. Et après cette période de guerre et de troubles, il en sortait quatre rois principaux qui avaient été responsables sous Alexandre. Il y avait Séleucos en Syrie, Ptolémée en Égypte, Lysimaque en Asie mineure, c'est-à-dire ce que nous appelons la Turquie aujourd'hui, et Cassandre en Macédoine. Et c'est facile de vérifier tout ceci dans l'histoire, non pas biblique, mais l'histoire civile que nous connaissons. Il y avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Il a effectivement vaincu tout ce qu'il y avait eu dans l'Empire perse et l'Empire babylonien. Il a repris le même territoire et a régné là-dessus. Verset 7 maintenant. « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. » Quel était le royaume ou l'empire qui a englouti l'empire gréco-macédonien d'Alexandre? Eh bien, c'était l'empire romain. Et l'empire romain était différent de tous les empires qui avaient précédé. Était armé d'armes en fer, comme les dents de cet animal-là. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Il y avait 10 cornes. Maintenant, nous trouvons dans plusieurs prophéties de la Bible 10 cornes. Si vous considérez l'animal qui se trouve dans Apocalypse chapitre 17, verset 12, il y a un animal qui a 10 cornes. Mais il ne s'agit pas des mêmes 10, parce que en Apocalypse, il s'agit de 10 rois qui vont régner en même temps. Alors qu'ici, nous avons, quand nous comparons avec l'histoire, ce sont des rois ou des royaumes successifs qui ont suivi dans le temps. Il y avait 10 cornes. Maintenant, si nous considérons l'histoire de l'Empire romain, on peut trouver 10 moments, en fait 9 qui nous ont précédés, un autre qui reste à être accompli, mais on peut trouver 9 moments charnières qui ont marqué des tournants décisifs dans l'histoire de l'Empire romain ou du Saint-Empire romain. Premièrement, il y avait, après la chute de l'Empire romain, il y avait les Vandales qui ont vaincu la ville de Rome. Et ils ont vaincu une bonne partie du monde de la Méditerranée. Et en 455 de notre ère, ils ont vaincu la ville de Rome. Ils ont été persuadés de partir uniquement par l'influence du pape Léon Ier. Ils ont saccagé la ville pendant 2 semaines et puis ils sont partis. Ça, c'était un tournant décisif. Un autre pouvoir a siégé à Rome pendant ce temps-là. Et comme j'ai dit, ça a marqué un grand tournant dans l'histoire de Rome. Quelques années après, un autre tribu goth, alémanique, les Héruli, ont destitué le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustus, en 476 de notre ère. Ensuite, quelques années après cela, les Ostrogoths, notre tribu gothique, a créé un royaume en Italie et a pris le pouvoir dans la ville de Rome. Donc, il y avait 3 rois, royaumes successifs sur le territoire de la ville de Rome. Et ces 3 rois ont été arrêtés ou détruits par l'opposition de la papauté et de l'Église catholique. C'était l'instrument qui a permis de faire partir ces rois-là et de restituer le gouvernement de Rome aux Romains, aux Italiens. Un 4e roi est venu juste après. Les Ostrogoths ont été vaincus en 554 par Justinien, qui était l'empereur de la 2e partie de l'Empire romain. Il y avait l'Empire romain occidental et oriental, et lui, il était l'empereur dans l'Orient, à Constantinople, comme on le disait à l'époque, et il a repris le pouvoir et a restauré ce qu'on appelait l'impérium, c'est-à-dire le règne royal à Rome. C'est son général Belisaire qui a fait. Il a reconquis les territoires qui avaient été pris par des Vandales et par les Ostrogoths. Il était un fervent catholique, et ça, c'est un lien que nous allons trouver maintenant avec les rois à venir. Tous ces, parfois on dit résurrection de l'Empire romain, tous ces manifestations de l'Empire romain ont un lien avec l'Église catholique, cette grande Église. Et nous allons retrouver des traces de son influence plus loin dans cette prophétie ici. C'est Justinien qui a fait construire Sainte-Sophie à Istanbul, qui est encore un bâtiment magnifique, un bâtiment qui est là depuis 1500 ans. C'est rare de trouver un bâtiment qui est si ancien, et c'est encore extrêmement impressionnant aujourd'hui. Ensuite, en l'an 800, l'empereur Charlemagne a été couronné par le pape Léon II à Rome. C'est le pape qui a placé la couronne sur sa tête et il a été annoncé comme empereur romain par le pape. Et ça, c'est le début d'une certaine manière de ce qu'on appelle le Saint-Empire romain, qui est une union entre des territoires en Europe, Rome, presque toujours, Rome et l'Église catholique, et les deux se soutenaient mutuellement à travers l'histoire. Charlemagne, donc, avec les Francs, lui, il était couronné empereur romain par Léon II. Après Charlemagne, ce titre empereur romain est tombé un peu dans le désuétude, mais le titre a été ressuscité par Othon le Grand. Il a relevé le titre et il fonda ce qu'on appelle le Saint-Empire romain. Et il était couronné comme empereur du Saint-Empire romain germanique en l'an 962, couronné encore une fois par le pape, cette fois-ci Jean XXII, à Rome. Il était l'empereur du Saint-Empire romain, en latin « Imperator Romanus Sacer ». C'est un terme qui devait être utilisé et est encore utilisé par les historiens pour désigner un souverain médiéval qui avait également le titre d'empereur des Romains. Il était empereur des Romains avec l'appui de l'Église catholique. Le Saint-Empire romain germanique est explicitement proclamé à l'époque être la continuation de l'Empire romain. Ils l'ont annoncé. Nous sommes la continuité de l'Empire romain. Cette union de l'Église catholique et ses différents empereurs à partir d'Othon Ier, quand il fut couronné empereur romain germanique. Le titre officiel avait été pris par Charlemagne, mais c'est Othon qui l'a officiellement établi, et à partir de là, d'autres ont porté ce titre. C'est intéressant de noter, lui, Othon le Grand, était un Habsbourg. Et il y a quelques années, j'étais à Vienne et nous avons visité le musée historique de la famille Habsbourg. Et j'ai découvert, je ne savais pas avant, qu'il existe encore un ordre chevaleresque, l'ordre de la Toison d'Or, qui était fondé en 1430 pour protéger, pour que la maison Habsbourg protège l'Église catholique et ses activités de par le monde. Ça existe encore, cet ordre de la Toison d'Or. Vous pouvez, si vous allez en ligne, vous pouvez trouver la liste des membres passés et présents. Ça en comprend des autorités éminentes du monde germanique. En fait, il y a même maintenant deux branches de cet ordre de la Toison d'Or. Et parfois même le président de la République française en a fait partie de la branche espagnole. C'est intéressant de remarquer que Voltaire a dit à propos du Saint-Empire romain, il a dit « Cette agglomération qui s'appelait et s'appelle encore le Saint-Empire romain n'est ni saint, ni romaine, ni un empire. » Et en fait, il avait raison quand il a dit cela. Et ça, c'est Othon le Grand. Septièmement, il y avait Charles Quint, qui était aussi Habsbourg. En 1520, il est devenu héritier de trois des principales dynasties européennes. La maison de Habsbourg, la maison de Valois-Bourgogne et les Pays-Bas-Bourguignons, et la maison de Trastamara, c'est-à-dire la couronne de Castille et d'Aragon. Il a donc régné sur tous ces territoires 4 millions de kilomètres carrés, l'un des plus grands royaumes de l'histoire. Et il est devenu empereur du Saint-Empire romain de nouveau et a causé pas mal de turbulences en Europe pendant son vivant. L'assaut sur l'Angleterre, etc. Il désirait vaincre le monde entier. Huitièmement, nous trouvons Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte, qui était couronné par le pape, en quelque sorte. Les Français connaissent bien cette histoire. Le pape est venu, il avait la couronne en main et c'est Napoléon qui a pris la couronne de ses mains et l'a mise sur sa tête pour souligner qu'il est devenu empereur par ses propres mains, mais avec l'aval du pape. Le pape a consenti, le pape a officialisé le fait que Napoléon allait être cet empereur en ligue avec l'Église catholique. Il s'est marié, Napoléon, avec la fille Marie-Louise du roi d'Habsbourg. Donc, il y a un lien entre Napoléon et la maison de Habsbourg. En fait, c'est à la défaite de l'empereur autrichien, c'était la fin officielle du Saint-Empire romain. Mais Napoléon a repris beaucoup de ses liens et de ses points d'identification. Neuvièmement, nous avons la période de l'unification de l'Italie sous Garibaldi et Mussolini, entre 1870 et 1929 ou 30 environ, il y avait la réunification, l'unification de l'Italie et un accord avec l'Église catholique de nouveau. Mussolini a signé les traités du Latran en 1929, qui ont fait du catholicisme la religion d'État officielle en Italie fasciste. Et ça a duré jusqu'à 1944, quand l'Italie et l'Allemagne ont chuté finalement. Là, nous avons neuf éléments, 9 rois chefs, qui ont marqué des tournants décisifs dans l'histoire de l'Empire romain ou du Saint-Empire romain, et qui avaient la main mise sur Rome et ont parfois régné à partir de Rome ou ont vaincu Rome et ont prétendu continuer la lignée de l'Empire romain. Et le 10e, évidemment, est encore à venir, comme nous allons voir un peu plus loin dans cette prophétie, dans ce chapitre. Le 10e reste à voir. Ce sera la dernière résurrection de l'Empire romain dans la personne de ce que l'Apocalypse appelle la bête. Ce grand chef politico-religieux, comme les autres qui ont procédé, qui régnera à partir de l'Europe et qui aura la main mise sur Rome parmi d'autres coins, d'autres régions en Europe. Alors, continuons maintenant. Nous avons vu ces 10 cornes. Nous avons vu au verset 8 qu'il y avait une petite corne qui est sortie du milieu d'elle. 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Nous avons déjà vu que c'est la papauté qui a fait partir ces 3 premiers royaumes barbares qui ont pris le pouvoir à Rome. C'est la papauté. Et nous allons garder cela à l'esprit parce qu'en lisant ce qui va suivre dans ce chapitre, nous allons voir qu'il y a un lien très proche. Ça devient une évidence que cette corne-là représente l'Église catholique et la papauté. Elle avait, au milieu du verset 8, elle avait les yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Est-ce que la papauté a parlé avec arrogance? Eh bien, quand on regarde ne serait-ce que le titre officiel du pape, eh bien, on voit que voici le titre complet du pape, encore aujourd'hui. Évêque de Rome, vicaire de Jésus-Christ. Ça veut dire vicaire, c'est à la place d'eux. Il a pris la place de Jésus-Christ sur terre, ce qui est une hérésie. Successeur du prince des apôtres, souverain pontife de l'Église universelle, patriarche d'Occident, primat d'Italie, évêque et métropolite de la province romaine, souverain de l'État de la Cité du Vatican, serviteur des serviteurs de Dieu. Ça, c'est un titre, tout ça ensemble. Et puis, nous savons que d'autres arrogances sont venues de la papauté, de prendre sur elle de changer le jour de culte chrétien. Il n'y a pas de raison dans la Bible de s'assembler le dimanche pour adorer Dieu. Le sabbat est le jour établi par l'Éternel. Et quand on fait des recherches, on voit que c'est simplement par l'autorité du pape. Il a déclaré, voilà, on va faire comme ça maintenant. Parce que, effectivement, l'Église catholique croit que le pape peut changer l'Écriture. Il prend la précédence sur la parole inspirée de Dieu. Et ça, on peut dire, c'est une chose arrogante. Continuons au verset 9. « Je regardais pendant qu'on l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours, Dieu le Père, s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, la pureté. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, la pureté et aussi la gravitas de l'âge. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » Et ceci est à comparer avec d'autres descriptions que nous avons dans les prophéties du trône de Dieu. Un langage similaire est souvent utilisé. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, les anges saints de Dieu. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Il existe beaucoup d'anges. Beaucoup. 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. C'est-à-dire, on va juger selon la parole de Dieu. Et nous retrouvons ce langage en Apocalypse également, en Apocalypse chapitre 20. Les livres furent ouverts. Et un autre livre, le livre de vie, mais les livres, les vivants vont, et les morts vont être jugés selon ce qui est écrit dans les livres. Donc, ils ouvrent la parole de Dieu et ils commencent à juger. Je regardais alors, verset 11, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Finalement, Jésus-Christ, à son retour, détruira les armées rebelles de cette dernière résurrection du Saint-Empire romain. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur était accordée pour un certain temps. Il y avait des vestiges de ce royaume ou de ces trois autres royaumes qui ont continué pendant un temps avant de disparaître. Verset 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » L'un des titres que Jésus-Christ s'est attribué pendant son ministère. Parfois, il est appelé « fils de Dieu », pour souligner sa divinité, et parfois il est appelé fils de l'homme pour souligner son humanité. Mais les deux étaient vrais. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Exactement comme c'est présenté dans Daniel chapitre 2, une pierre découpée sans l'aide d'une main va venir détruire la statue, va devenir une montagne et remplir toute la terre, et ce royaume ne sera jamais remplacé par un autre. Une fois que le royaume de Dieu est établi, ce sera un royaume éternel. Et nous pouvons être très reconnaissants à Dieu que c'est le cas. Donc ici, nous avons le jugement final sur le jugement de Dieu sur tous les empires humains, avec tout leur tard. Et le règne de l'homme, en général, va prendre fin. Après cela, Dieu régnera. Et il n'y aura plus de gouvernement humain avec toutes ses imperfections. Je ne vais pas prendre le temps de le faire maintenant, mais je peux vous donner quelques références que vous pourrez comparer plus tard chez vous, si vous voulez. Si vous voulez comparer le verset 9 avec Apocalypse chapitre 4 et 5, où nous avons aussi une description du trône de Dieu, et nous pouvons comparer cela avec Ézéchiel, les chapitres 1 et 10, et Ésaïe, chapitre 6. Ce sont des endroits dans les prophéties quand nous avons une description du trône de Dieu, et c'est très similaire à ce que nous avons ici. Donc, je répète les passages, Apocalypse chapitre 4 et 5, Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 10, et Ésaïe chapitre 6. Poursuivons maintenant verset 15. « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. » Parfois, nous souhaiterions avoir une révélation de la part de Dieu. Faut pas le souhaiter légèrement, parce que quand Daniel a reçu des visions de la part de Dieu, souvent il était malade pendant des jours ou des semaines après, puisque c'était tellement intense. Donc, ce n'est pas une petite chose de recevoir une révélation de la part de Dieu. Les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là. Donc, Daniel était conscient qu'il y avait des anges dans cette vision qui étaient apparemment à proximité de lui. Et c'est le cas dans d'autres passages dans Daniel également. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai de me révéler la vérité sur toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Comme nous trouvons dans Apocalypse chapitre 5, verset 10. Les saints régneront sur la terre. Tant que cette terre physique subsistera, les saints régneront. Et puis, nous commencerons un autre chapitre quand ce sera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Verset 19. Il était fasciné, Daniel, par ce quatrième animal qui était si différent des autres. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ceux qui restaient. En fait, l'Empire romain a vaincu les territoires qui avaient été gouvernés par ces autres royaumes, sauf quand on va extrêmement à l'est, il y avait quelques parties qui ont échappé parfois à l'Empire romain, mais peu. Donc, il voulait savoir cet animal qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle toi étais tombé. Nous avons déjà vu historiquement comment cela s'est passé, mais voyons précisément ce que l'ange va lui dire. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence des autres. Très souvent dans l'histoire, la papauté était plus puissante que les rois ou les empereurs, puisqu'il avait la possibilité de déclarer anathème quelqu'un, ce qui donnait la permission aux autres rois autour de faire la guerre tous ensemble contre ce roi récalcitrant du point de vue du pape. Les Européens connaissent l'histoire de rois qui sont venus pieds nus dans la neige devant le palais du pape pour être pardonnés de leurs méfaits, et ils étaient obligés de le faire, sinon ils perdaient leur royaume. Donc, il paraissait plus grande que les autres. Et aussi, il a duré plus longtemps que les autres. La papauté existe encore. La plupart de ces autres manifestations de royaume sont disparues depuis longtemps. Le pape est toujours là. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il y avait une grande persécution contre les chrétiens à travers l'histoire. Et ça va continuer, cette persécution reprendra juste avant le retour de Jésus-Christ, mais ça durait un certain temps de manière très intense, et nous allons arriver à la durée dans un instant. Il me parla ainsi, verset 23. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, qui tournent autour de Rome. Un autre s'élèvera après eux, ou d'après leur manière, on peut le comprendre dans le texte d'origine, un autre s'élèvera d'après leur manière, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Et nous avons déjà vu que ces 3 premières manifestations à l'Empire romain, à Rome, ont été déjouées à cause de l'autorité et l'influence du pape. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça, c'était ce qu'on appelle parfois l'âge des ténèbres pendant l'Inquisition catholique. L'Inquisition, si vous ne le savez pas, était, d'après les catholiques, une enquête sur la perversité hérétique, autrement dit les non-catholiques, ceux qui ne se soumettaient pas à l'Église catholique. C'était un groupe d'institutions au sein du système judiciaire de l'Église catholique romaine dont le but était de lutter contre les hérétiques. L'Inquisition a commencé en France au XIIe siècle pour lutter contre les cathares, les albigeois, et s'est ensuite étendue à d'autres pays européens, ainsi que dans l'ensemble des empires espagnols, portugais, les Amériques d'Asie et en Afrique. L'Inquisition se servait de la torture pour convaincre les non-catholiques de redevenir catholiques et de se soumettre à l'autorité du pape. Et c'est une période qui a duré, en fait, très longtemps. Un temps, des temps, et la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Et si nous comptons cela en jours, chaque mois prophétique a 30 jours, 3 ans et demi, ça fait 1260 jours. Entre le rétablissement de l'impérium par Justinien, en 554, et la défaite de Napoléon en 1814, eh bien, nous avons exactement 1260 jours. Et nous pensons que c'est cela, le temps des temps et la moitié d'un temps, c'est cette période très sombre quand l'Inquisition régnait et des non-catholiques étaient torturés, parfois à mort, brûlés vifs parfois, si l'Église trouvait qu'ils étaient hérétiques. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il espérera changer, c'est marqué au verset 25, espérera changer les temps et la loi. Et effectivement, l'Église catholique a déclaré qu'il ne faut plus observer le sabbat établi par l'Éternel, mais maintenant il faut observer le premier jour de la semaine. Et il n'y a aucune autorité dans la Bible pour cela. Et nos frères et sœurs en Europe en particulier, mais même dans d'autres pays francophones sous l'influence catholique, vous savez que souvent on a changé le cycle de la semaine. On fait commencer le cycle de la semaine avec lundi et on finit par dimanche. On essaie de mettre le dimanche à la septième jour de la semaine, alors qu'on sait pertinemment que c'est le samedi, le sabbat, qui est le septième jour de la semaine, selon le cycle que Dieu a établi au début. Mais ce sont autant d'efforts de changer les temps et de changer la loi, en particulier la loi sur le sabbat, mais ce n'est pas limité à cela. Il y a eu d'autres changements qui ont été effectués par la papauté, l'Église catholique. Donc, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. La bête et le faux prophète iront dans les temps de feu, au retour de Jésus-Christ, et ça sera fini, ils seront anéantis pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Puis il les a écrits pour que les gens de tout pays puissent comprendre que Dieu est en charge. Il permet à ces empires humains de régner pendant un certain temps. Il permet même la persécution de ces méchantes personnes contre ses élus. Mais ça ne va pas durer éternellement. Il mettra fin finalement, il va renvoyer Jésus-Christ, établir le royaume de Dieu sur la terre, et tous ces mauvais systèmes humains seront détruits, seront remplacés par le royaume de Dieu. Et ça, c'est une leçon que les prophéties, toutes les prophéties veulent nous rappeler, que Dieu est chef de tout ce qui se passe dans le règne des hommes. Et même s'il laisse les choses aller pendant un certain temps pour que l'humanité puisse brûler ses doigts, apprendre la leçon que nous ne savons pas comment nous diriger nous-mêmes, les résultats sont catastrophiques, eh bien finalement, tout le monde aura appris, et là, Dieu prendra les règnes du pouvoir, et ce sera toujours ainsi. Et ça, c'est une vérité qui est très, très encourageante. Voilà, frères et sœurs, nous avons dans un seul chapitre ici, dans Daniel 7, un aperçu de l'histoire de l'humanité à partir du temps de Daniel jusqu'au retour de Jésus-Christ et même au-delà. C'est une grande bénédiction que Dieu nous donne de nous révéler ces choses, de nous permettre de comprendre et de nous rassurer que Dieu est toujours en charge et que l'histoire finira heureusement. Il y aura une fin heureuse de l'histoire de l'humanité. Quelles que soient les difficultés que nous devons affronter dans cette vie, il y aura une fin heureuse à cette histoire de l'humanité. Rendons grâce à Dieu. Gardons ces choses à l'esprit alors que nous veillons sur les événements qui ont lieu dans le monde, en particulier en Europe, et nous risquons de voir le dernier accomplissement de certaines de ces choses du vivant de certains d'entre nous, sinon tous. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite un excellent fin de votre sabbat et jusqu'à une prochaine fois.